Bonjour Corentin Célin.
Bonjour Marie.
Votre livre s'adresse avant tout à des étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles. Vous revenez en détail sur les grandes étapes des relations entre les États-Unis et le monde de 1823 à 1945. Vous revenez d'abord longuement sur cette doctrine de Monroe. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi elle a profondément influencé la politique étrangère américaine ?
La doctrine de Monroe d'abord était une déclaration du président James Monroe à l'époque en 1823 transmise au Congrès des États-Unis. Le président Monroe invitait les Européens à ne plus se mêler des affaires du continent américain pris dans son ensemble et réitérait, ce qui était le cas depuis George Washington, l'isolement des États-Unis eux-mêmes vis-à-vis des affaires européennes. Pourquoi à l'époque ça n'a eu aucun impact? Parce que les États-Unis n'étaient pas en situation de puissance, donc ils n'étaient pas en mesure d'imposer quoi que ce soit aux puissances européennes, et c'était plutôt une déclaration d'intention. Elle est devenue doctrine par la suite, quand les États-Unis sont devenus puissance, car elle a longtemps imprégné la politique étrangère des États-Unis, avec d'une part la prétention qui est déjà présente dans le texte de dominer le continent américain et qui sera affirmé dans le corollaire de la doctrine de Monroe par Theodore Roosevelt en 1904, et aussi une grande méfiance vis-à-vis des alliances et des pactes.
Alors justement, vous revenez aussi sur ce rapport compliqué à l'Europe, au vieux monde, une grande méfiance finalement quant à ces pouvoirs européens qui pourraient nuire à l'indépendance, aux valeurs ou aux intérêts américains.
Oui, absolument, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'à cette époque-là, on est encore 50 ans à peine, un demi-siècle, après la fondation des États-Unis, avec une génération, celle de Monroe, qui a connu les pères fondateurs et qui donc est toujours porteuse de ce rêve d'un pays nouveau qui ne commettra pas les mêmes erreurs que l'Europe. L'Europe, il faut s'en souvenir à l'époque, qui sort de 3 siècles de guerre de religion. Il y a vraiment ce rêve d'un État nouveau, porteur à la fois d'un projet effectivement de souveraineté des États-Unis sur les États-Unis et potentiellement sur l'Amérique. Et puis, d'une démocratie, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, même si, bien sûr, c'est une démocratie qui se résume au suffrage des blancs et des hommes blancs, mais c'est un rêve démocratique dans une Europe qui est encore largement autocratique et autocrate.
On le voit bien à la lecture de votre ouvrage, Corentin Célin, les États-Unis aussi, dans cette période, aussi entre isolationnisme et interventionnisme. Est-ce que la politique étrangère de Donald Trump ressemble à celle des isolationnistes de l'après-Première Guerre mondiale ?
Alors, moins peut-être à celle des isolationnistes de l'après-Première Guerre mondiale, qui était moins un isolationnisme qu'un non-interventionnisme après une Première Guerre mondiale qui avait été mal vécue aux États-Unis. Mais par contre, Donald Trump présente des similitudes frappantes avec des présidents du 19e siècle. Évidemment, Andrew Jackson, dont il a fait lui-même la publicité depuis qu'il est devenu président. Il a même son portrait à la Maison-Blanche, bien en évidence pour montrer cette inspiration-là, parce que président nationaliste, issu du peuple, qui rompt justement avec les pères fondateurs. Jackson, c'est le président qui dit aussi, pour la première fois, les États-Unis doivent se développer par eux-mêmes, sur le continent américain, et surtout, surtout, ne jamais se mêler de l'Europe. On a un peu un retour à la doctrine de Monroe originelle chez Trump, c'est-à-dire surtout ne pas se mêler avec les Européens qui sont source de guerre, et Trump ajouterait source de dépenses financières, et aussi se méfier des alliances contraignantes, ce que George Washington lui-même avait énoncé à la fin du XVIIIe siècle.
Un mot encore de l'administration Trump qui semble tourner le dos à un ordre mondial que les États-Unis ont finalement conçu et orchestré.
Oui, on revient à la situation d'avant 1945, à la doctrine Monroe, c'est-à-dire que les États-Unis peuvent se suffire à eux-mêmes. Il y a le retour aussi à une sorte d'ambition d'une chasse gardée en Amérique qui correspond à ce projet vraiment d'une politique extérieure réduite au continent américain et où on se sépare d'un monde dont on n'a pas besoin.
Avec tout de même la création de nouvelles alliances.
Dès Jackson, ce sont les traités de commerce bilatéraux. Mais un traité de commerce bilatéral, surtout si, et on le voit à la fin du 19e siècle, on est en position de force, c'est exactement ce que cherche à faire Trump actuellement. On peut penser aux traités de commerce inégaux qui sont imposés à la fin du 19e siècle aux pays asiatiques. Purement des relations commerciales, on voit bien cette notion d'intérêt chez Trump. On ne veut plus de multilatéral qui risquerait d'entraîner vers des engagements excessifs.
Merci Corentin Célin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, co-rédigé avec Annick Foucrier et Nicolas Vecbourg, Les États-Unis et le monde, de la doctrine de Monroe à la création de l'ONU.